Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur le 92.1. Nous sommes le samedi 5 septembre. Ça va Nova ?
Ça va et toi ?
Bah oui, bah écoute, ça va. Écoute, on se remet tout doucement de ces émotions parce qu'il faut le dire, hein, clairement. Allons directement les pieds dans le plat. On a vécu des émotions hein, quand même pendant le mois d'août.
Oh oui.
Et ces émotions, bah écoute, elles sont venues à cause d'un événement. Un événement que plusieurs personnes qui connaissent tous les trucs qui se passent par les claviers, les manettes et tout ça connaissent. C'est la Gamescom. Oui ! On a eu l'honneur, grâce à Radio Campus, de pouvoir assister à cet événement qui rassemble, on va dire clairement, le grappin, la fourmilière des gens qui font du jeu vidéo un peu à travers le monde. À chaud comme ça, quel est ton feedback ? Comment t'as vécu ça, Deva ? Dis-moi.
La Gamescom, c'était trop bien. Voilà, voilà. Alors, je comprends que l'événement dure une semaine parce que je pense qu'il faut au moins ça pour faire tout le tour. Mais ouais, c'était trop cool en vrai. C'était kiffant. On a eu plein de goodies. On a découvert plein de jeux. C'était trop chouette. Voilà. Je suis chaude de refaire ça l'année prochaine.
Ah ben clairement, clairement, dès qu'il y a les accréditations qui sont ouvertes, on saute sur l'occasion. Allons-y directement, peut-être d'abord pour mettre en situation, nous sommes partis le lundi de la Gamescom, nous sommes partis tôt le matin, ça piquait les yeux dans le train et on est arrivé à Cologne. On est arrivé pour le premier jour, les deux premiers jours en fait, le lundi et le mardi, s'appellent la Gamescom Dev. Elles sont donc dédiées, comme son nom le sous-entend plus ou moins, aux développeurs et développeuses de jeux vidéo. C'est un moment qui n'est pas ouvert au public, qui est ouvert plus aux personnes vraiment de l'industrie du jeu vidéo et de la presse comme nous. Pendant ces deux jours-là, on a pu majoritairement assister à des conférences, mais aussi tester des jeux. On a eu un petit avant-goût, mais très léger quand même, soyons honnêtes. Quand même, on n'a pas sauté directement dans le gameplay interactif et tout ça, quoi.
Ouais, non.
On est allé voir donc plusieurs choses. Est-ce que toi, il y a une conférence que tu retiens parmi les différentes qu'on a faites ?
Moi, celle qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celle sur les futurs positifs et l'impact des dystopies en fait sur nos sociétés, qui était quand même vachement intéressante et qui, en plus d'être intéressante, bah, proposait plein de solutions. Et aussi, je pense que c'est la seule conférence où on a été qui était vraiment interactive, tu vois, où genre on nous a demandé de participer activement avec l'espèce de jeu par groupe à la fin, tu vois.
Exactement, c'est aussi celui qui nous a fait, je trouve, rencontrer d'autres personnes. On a dû se mélanger dans le public, on a dû se poser des questions. Effectivement, du coup, cette conférence, tu dis qu'elle parle de dystopie, elle parlait aussi d'utopie, et le mot que moi j'ai retenu, c'est protopie.
Oui, exactement.
Si on devait expliquer aux gens, c'est quoi la protopie ?
Donc en fait, de ce que j'ai compris, la protopie, c'est entre la dystopie et l'utopie. Donc là où la dystopie, c'est un peu une société qui pue du cul, hein, on va pas se mentir, mais où tout se finit toujours mal et globalement, c'est la merde quoi qu'il arrive. En face, on a l'utopie qui, elle, du coup, se déroule souvent dans des univers qui ne sont pas hyper familiers parce que justement, ça a l'air très irréalisable. Et en fait, la protopie, c'est vraiment entre les deux. Dans le sens où on est dans un univers qui, de base, se dirige vers des dystopies. Mais par contre, on essaye de pousser les consommateurs et les consommatrices de l'œuvre à l'action, en fait. À se poser des questions, à voilà, on est dans une situation qui évolue pas bien ou qui est pas bien de base. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça ? Quels sont nos moyens d'agir ? Et en fait, normalement, c'est des œuvres qui sont pensées pour que quand on en ressort, on ait des idées de solutions en tête, en fait. Voilà, pour des situations très dramatiques.
C'est ça, parce que le constat de la dystopie, l'utopie, ils ont plein de trucs qui les différencient, mais une chose qui les rassemble, c'est un peu l'immobilisme. Soit d'un côté, on est face à tant de désespoir qu'on ne sait plus quoi faire. De l'autre côté, on est tellement dans un monde un peu trop bisounoursé qu'il n'y a même pas d'enjeu finalement, parfois. Et donc, on se dit, en fait, qu'est-ce que je fous ici ? Il n'y a rien à faire. Et donc, l'idée, ouais, c'est ça, c'est de nous pousser à, par l'œuvre, œuvre. Donc ça peut être cinéma, ça peut être littérature, ça peut être ici dans le cas qui nous intéresse des jeux vidéo, nous pousser à une réflexion, voire à des possibilités d'action dans notre monde concret. C'est effectivement comme ça aussi que je l'ai entendu. Et c'est vrai que c'est aussi la conférence qui nous a, je pense, un peu retenus tous les deux. Parce que bah, derrière, dans les jeux qu'on a testés et les personnes qu'on a interviewées, bah, on a essayé de retrouver un peu de ça. C'est vrai que c'était intéressant, je trouve, on va le montrer plus tard, mais de faire un lien entre ce qu'on a pu découvrir dans les conférences, dans ce qu'on a pu nous transmettre comme savoir, et bah, les jeux concrets qu'on a pu essayer et voir comment les personnes qui les créent peuvent s'approprier tous ces concepts qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais et encore moins à mettre en pratique. Dans les conférences, moi, celle que j'avais faite, c'était l'analyse musicale de Mouse P for Hire, qui est cette espèce de Doom-like, mais en version cartoon un peu Mickey Mouse. C'était hyper intéressant. Bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique et donc dès qu'on parle un peu de son et tout ça, j'ai les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Mais ce qui était vraiment super intéressant, c'était de voir comment dans un jeu en plus de ça qui est aussi réactif qu'un first person shooter finalement, parce que ben voilà, c'est quand même un shooter où il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent. On entre dans une pièce, bam, il y a des gens qui nous tombent dessus, on doit se mettre dans un coin, on doit commencer à tirer et tout. Comment est-ce que dans des jeux aussi réactifs que ça, on créer différents thèmes de musique, différents thèmes donc parfois liés au personnage principal, parfois liés au moment plus calme, parfois liés à un personnage qui surgit en face de nous. Et voilà, comment on crée toutes ces couches de sons et de musique qui peuvent interagir et nous donner, nous, en tant que consommateurs, vraiment cette ambiance qui est recherchée pour chaque œuvre. Je trouvais ça vraiment super intéressant. D'autres choses que tu voudrais partager au niveau des conférences ?
J'avais bien aimé la conférence sur comment gérer la créativité dans des situations de tension.
Ouais.
Donc particulièrement quand on doit travailler sur des projets créatifs sur lesquels il y a des contraintes de temps, etc., ou autres. Et en fait, ce qui était hyper intéressant dans cette conférence, je trouve, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que ça parlait beaucoup de santé mentale. Mmh. Et je trouvais ça hyper chouette de voir deux gars qui, visiblement, sont des mecs cis. Si je les mets genre, je suis vraiment très désolée, mais visuellement, c'est ça qu'on avait. Et en fait, je trouve ça hyper cool d'avoir vraiment eu deux gars qui parlaient de santé mentale, qui parlaient de leurs émotions, qui parlaient de leur vécu, etc., de façon hyper libre, hyper ouverte, tu vois. Et c'était vraiment... ça fait du bien, tu vois. C'est pas un truc qu'on voit hyper souvent, et une conférence entièrement axée sur le côté vraiment émotionnel et santé mentale. C'était hyper chouette. Et j'ai bien aimé qu'ils donnent un peu leur façon justement de gérer les projets dans des situations où voilà, c'est pas toujours facile, où le thème tient à cœur, tu vois, ou alors que dans le perso, il se passe vraiment des trucs catastrophiques, mais qu'il faut travailler quand même. Enfin, c'était hyper intéressant.
Je suis d'accord, d'autant plus que quand on arrive au début, l'un des deux fait partie de Riot Games et travaille sur League of Legends, et si j'ai bien compris, est team manager, donc ça doit quand même représenter un certain poids, une certaine charge mentale, on va dire, au niveau du travail, d'être responsable d'une équipe dans un si gros jeu. L'autre avait l'air d'être directeur de photographie ou réalisateur pour des clips, des publicités qui sont des parfois pour des clients assez balèzes. Donc je me disais, ah, on va très vite tomber dans quelque chose d'un peu corporate et tout ça. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout, ouais.
Tu l'as dit clairement, on met en avant, en tout cas les deux personnes mettaient en avant le rapport à soi, le rapport à son intuition. Il y a beaucoup le mot intuition qui est ressorti. Le rapport aussi à avoir confiance en soi, vraiment ressentir parfois quand les choses ne vont pas et se faire confiance dans ses émotions. En fait, c'est vraiment
c'est ça.
C'était assez inattendu.
Oui.
Là où, bon, au niveau de l'IA, c'était hyper attendu et on n'a pas eu de
Oui, bon,
surprise,
c'était
mais là, c'était
prévisible, oui.
l'inverse. Là, c'était l'inverse, c'était assez inattendu. C'est vrai que ça a fait du bien en plus dans ce truc un peu. Voilà, la Gamescom, ça reste un endroit où tout le monde est. Beaucoup de gens qui sont bien habillés, on voit qu'ils sont assez stressés d'être là, on voit que c'est un
C'est
moment très
clair,
important
ouais.
pour LE. Et bah, nous, on était un peu là au milieu, oh, cool, on parle de santé mentale, bah, allez, let's go, ça permet d'un peu redescendre aussi, je trouve, au niveau de
Ouais, mais
l'atmosphère.
c'était clairement plus une grosse conversation que enfin vraiment une conférence en soi, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui était sympa aussi.
Ouais, tout à fait. C'est quand dans les autres conférences, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure en off de celle sur Subnautica 2, comment faire un sequel d'un jeu qui a déjà marché. Là, on s'attardait sur comment faire une suite à un jeu qui a marché, ce qui est quand même pas mal aussi lié à la conférence où on est allé voir sur comment créer une franchise.
Oui.
En fait, il y a toujours une part que tu dois garder quand tu veux faire une suite. Encore plus quand tu fais une franchise. Là, on nous disait, enfin, il disait de garder carrément une base en termes de personnages et même
Ouais.
d'endroits où se passe la narration. Mais toujours garder cet équilibre entre qu'est-ce que je juste presque copie-colle. Qu'est-ce que j'améliore et qu'est-ce que je ramène de nouveau? C'est vrai que nous, on ne. Enfin, peut-être que toi, tu en fais, je ne sais pas, finalement, tu as une vie que je ne connais pas encore, mais on n'est pas vraiment non plus dans le développement à 100% de jeux vidéo. C'est des
Non,
choses
non.
dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, c'était intéressant de se rendre compte des processus pour pouvoir, ben, là, par exemple, créer des suites et créer des franchises. Et sinon, en termes de jeu, toi, tu avais essayé un jeu qui s'appelle Media Circus.
Oui, donc c'est un jeu où on joue un directeur ou une directrice, je ne sais pas, d'un journal papier, et du coup on doit gérer ça et nos journalistes. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a toutes les 5 minutes, il y a des dilemmes un peu moraux, quoi, où genre on rapporte des événements, etc. Et on a très souvent le choix entre surfer sur une vibe qui potentiellement est peut-être pas vraie ou qui fait un peu de la désinformation, ou alors de twister un petit peu la vérité, voilà, pour que ça fasse du chiffre. Et en face, bah, on a aussi le choix de, OK, on dit la vérité, on dit les choses telles qu'elles sont, etc. Et en fait, ça pourrait être très binaire, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce que le problème, c'est que il y a plein de composantes sociales, il y a aussi les composantes financières, parce qu'il faut qu'on paye notre local, etc. Enfin, donc, il y a vraiment plein de choses qui nous mettent la pression tout le temps, il faut prendre plein de décisions. Et c'était hyper intéressant, en vrai. Voilà, j'ai kiffé de fou.
Oui,
Je
clairement,
conseille.
ça avait l'air, en tout cas visuellement en plus, même je trouve que l'art avait l'air sympa.
Oui, très joli, ouais.
Moi, de mon côté, j'ai essayé deux, trois jeux. Je pense que j'avais commencé par Namo, du coup, qui est un jeu coréen, qui est clairement un jeu purement de boss, quasi. Vraiment, il y a juste un tout petit tutoriel, donc c'est en 2D platformer. Et on est un combattant qui vient juste défier des boss et des espèces de divinités maléfiques. C'était intéressant. Après, on voit que c'était quand même un début de jeu. Donc, je pense que les personnes étaient venues. C'est marrant, il y avait ce petit écriteau. On a voyagé 13 heures pour venir jusqu'ici, tester notre jeu et tout ça. Donc, bah, bien sûr, on l'a testé avec. Moi, j'ai testé en tout cas avec grand plaisir. D'autant plus qu'il y avait des petits challenges, donc c'était marrant. Mais on voit que c'est quand même un jeu, ben voilà, qui était un peu, c'est une version un peu en gestation, on va dire. Et bon, il n'y avait pas du tout de narration, il y avait un petit tuto et après directement on t'envoyait à la sauce, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien me fight, donc c'était sympa. Il y avait un jeu qui s'appelle Dream Healer. Toi tu l'as vu quand j'ai testé. Ça faut
Ouais.
dire quand même, il y avait donc c'est un jeu chilien. Qui n'est pas encore sur Steam. Tu m'as dit qu'il n'était pas encore
Non,
sur la plateforme.
pas à moins que ça ait changé,
Ouais,
je ne pense pas.
bon, de toute façon, il vient d'arriver, ou en tout cas, il n'y était pas au moment où on l'a testé. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, je pense qu'on incarnait un enfant qui était un peu perdu, on va dire, dans ses rêves, et bah, il fallait un peu combattre les mauvais esprits des rêves. Le twist, c'est que du coup, c'était du combat tour par tour qu'on jouait avec des cartes, mais ces cartes avaient des formes un peu comme dans Tetris, et l'endroit où on jouait les cartes avait un certain nombre de carrés limités, et donc il fallait optimiser l'utilisation des cartes pour les faire rentrer dans ce schéma qui changeait tout le temps en plus, donc la forme dans laquelle on devait faire rentrer les cartes changeait tout le temps. On gagnait de plus en plus de cartes, on avait un compagnon aussi, un ou deux compagnons, je ne sais plus. Oui, en tout cas, il y
Deux,
avait
je
au
crois.
moins un oiseau avec un petit arc à flèche, là, je me souviens.
Ah oui, peut-être
Et
pas au début, ouais.
voilà, c'était assez intéressant parce que ça mélange un peu une espèce de gestion d'inventaire du tour par tour et du jeu de cartes. Ça avait l'air vraiment hyper prometteur. Et le dernier que j'ai testé, c'est Dead Root. Alors là, c'est vraiment juste simplement un escargot avec une épée, avec un combat à la Dark Souls, donc faire des roulades.
Un escargot qui va très
Oui,
très vite, hein. Je tiens à le
oui,
dire.
un escargot qui n'est pas lent du tout, du tout, du tout. Voilà.
Sous stéroïde,
Et
l'escargot, hein.
tellement sous stéroïdes qu'il y a parfois des exécutions, donc tu te bats souvent contre des espèces d'insectes comme ça. Et si tu arrives à un certain pourcentage de leur PV, tu as un moment où tu peux faire une exécution, et donc tu leur arraches la tête et tout. Enfin, vraiment, c'était marrant, mais encore une fois, un peu comme Namo, le jeu coréen que j'expliquais juste avant, ça se voit que c'est vraiment un jeu qui a un gameplay et qui maintenant doit prendre le temps d'écrire une histoire, parce que là c'était juste des fights et je ne sais pas du tout que fait cet escargot-là et pourquoi il se bat contre des insectes et qu'il leur arrache la tête, quoi. Je ne sais rien du tout. Mais voilà, ça valait quand même le détour. Et je veux dire que c'était quand même déjà quatre jeux qui ont permis de se mettre dans le bain, mais on va voir quand même que ce qui nous attendait après était bien plus, bien plus ample et bien plus vaste que tout ce qu'on vient de vous dire, puisque à partir de mercredi et jeudi, on a pu là vraiment démarrer la Gamescom qui est ouverte au public et donc démarrer, on va dire, vraiment le sel de la Gamescom où ben là c'est des halls et des salles remplies, mais remplies, remplies de milliers de personnes avec plein d'espaces différents. Toi, tu m'avais dit d'ailleurs que dimanche c'était hyper bondé. Alors, je veux pas savoir comment c'était parce que je trouvais que moi jeudi c'était déjà pas mal. C'est vraiment ça, c'est hallucinant le nombre de personnes qu'il y a ces jours-là, quoi.
Ouais,
Et
de
alors nous,
fou.
bah, du coup, chaque jour, on a essayé de faire la max. On était là du début à la fin. On a fait de 9h à 19h. Et y a plusieurs facettes ce moment-là. Il y en a trois principales. Il y a la business area à laquelle nous on avait accès, mais le grand public n'a pas accès, puisque comme son nom l'indique, c'est la business area.
Les ouais.
C'est l'endroit où bien les gens font du networking, font des interviews. Il y avait beaucoup de cabines d'interviews et il y avait des cabines pour
Ouais.
essayer des jeux en avant-première. Et toi, tu as pu essayer un jeu que tu attendais quand même.
Oh oui. Alien Isolation Bébou 2. ouais, c'était. Bah ouais, bah c'est littéralement le premier rendez-vous que j'ai pris. C'est-à-dire que, tu vois, tu sais, on recevait des mails par vague, là, de 25 mails par jour pour 25 jeux par
Déferlante de
jour. C'était
mails
n'importe
dans
quoi.
nos.
Ah ouais, non, c'était déconné et je trouvais ça relativement ridicule de prendre des rendez-vous jusqu'au moment où dans un des mails c'était écrit Alien Isolation et là j'ai paniqué. Et donc voilà, j'ai pris mon petit rendez-vous, c'était inévitable et du coup bah, j'ai pu tester la démo de 30 minutes et heureusement parce qu'on s'est rendu compte qu'après dans les jours du public il y avait 2 heures d'attente tous les jours pour jouer à Alien Isolation. Donc bon, c'était pas si mal
Oui, ben c'est
finalement.
ça, parce que les jeux qu'on a testés majoritairement étaient aussi accessibles au public, mais le public doit faire la file, quoi. Je veux dire, alors ils sont dans un beau décor pour faire la file. Ça, il n'y a rien à dire.
Oui,
C'est
c'est joli,
nous,
oui.
ceci dit, on était quand même reçus du coup dans l'espèce de QG de Sega,
Ouais, c'est ça.
où en plus de ça, j'ai découvert moi quand je suis allé tester mon jeu qu'en fait on avait accès au petit frigo. Du coup, on pouvait prendre des petites boissons et tout ça.
Oui,
On était vraiment bien reçus.
petite machine à
Ouais,
café.
petit canapé.
Salon, c'était cosy. Ouais, ouais.
Et grâce à ton test d'Alien Isolation, moi j'ai pu snitcher et essayer d'avoir, et finalement je l'ai eu du coup, ce rendez-vous le lendemain pour essayer Total War Warhammer 40 000. C'était vraiment inattendu de ma part, parce qu'en fait j'étais accompagné à Alien Isolation 2 et j'ai vu ça, j'ai fait oui, je veux essayer. tout ça pour dire que c'était quand même aussi la première fois qu'on avait accès à ce genre d'expérience, et donc on y allait un peu à tâtons, ouais. Parce qu'en plus c'est un peu impressionnant quand même quand tu rentres dans ce truc, il y a que des gens hyper sérieux partout qui boivent plein de café et qui ont l'air de signer plein de contrats avec plein de zéros dessus.
C'est ça, que des gens en costume la même couleur partout, tu vois, genre. Il y a un style vestimentaire avec lequel on était un chouïa en décalage, peut-être.
Disons que je pense que j'étais le seul à avoir un pantalon vert et jaune, ouais.
Voilà.
Et du coup, Alien Isolation 2, est-ce que tu as des petits détails que tu veux partager ?
Alors, c'était hyper joli, voilà. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans la démo, c'est le fait que en fait, tout le début de la démo est en extérieur. Et du coup, j'ai tendance à me dire qu'éventuellement, il y aura des passages en extérieur dans le jeu. Et je trouve ça hyper cool. Parce qu'en termes de sound design, c'était incroyable. Enfin, t'es dehors, c'est la tempête, il y a de l'orage, il y a de la pluie et tout. Et vraiment, au niveau sonore, on y est, quoi. C'était hyper réaliste. Le jeu est super joli. Et bon, voilà, on n'a pas énormément d'infos sur l'histoire. La démo se termine quand même assez vite. Et la seule chose que j'ai remarquée qui n'était pas incroyable, c'était du coup le xénomorphe. Donc il y a un petit moment où on est enfermé avec elle et voilà. Et en fait, elle est un petit peu bancale. Voilà, il y a eu des moments où elle s'est tépée, genre elle est là et puis d'un coup elle est 1m50 plus loin, on ne sait pas trop. Et aussi, ça se voit qu'il y a, au niveau du pass tracing, il y a des endroits où elle ne sait pas marcher alors qu'elle devrait. Mais voilà, c'est rien qui ne soit pas correctible. Du coup, je suis pas hyper inquiète. Je pense que c'est l'IA qui doit encore être améliorée. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, s'il y a vraiment des parties en extérieur, je pense que ça promet d'être zinzin.
C'est ça, en fait, qui est, je pense, un peu compliqué. Peut-être le pari qu'ils veulent faire s'ils ouvrent à l'extérieur. Et vu que une partie de la peur, entre guillemets, dans ce jeu vient du fait d'être enfermé avec une bête. Mais bon, après, on est dans l'espace.
C'est ça.
Je veux dire,
ce sera moins 8 clos.
Ouais, mais tu peux pas te casser.
Faut voir.
Tu peux pas traverser et aller jusqu'à la prochaine planète. Tu restes quand même si t'es en extérieur. Je pense que tu restes quand même limité dans tes mouvements, mais bon, voilà, voyons ce que ça donne. Mais ça avait l'air effectivement, en tout cas, très très joli, et l'ambiance avait l'air bien bien réussie. Moi, de mon côté, Total War Warhammer 40 000, écoutez, pour les gens qui connaissent Total War Warhammer, c'est la continuité, mais avec un nouvel univers. Pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup, c'est un jeu de stratégie type. Type RTS, mais pas vraiment, puisque on va jouer des batailles que par moments précis, qui sont les moments de bataille. c'est de la conquête de territoire dans un univers là qui est bien 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 dystopique. 40 000, du coup, c'est référence à l'année à laquelle ça devrait avoir lieu. Je vais pas vous faire un cours sur je me tromperais si j'expliquais de ce que c'est que Warhammer 40 000, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le feeling en main est vraiment très très bon. Là où Total War Warhammer classique avait l'air un peu lent et tout ça, je pense qu'ils ont voulu booster un peu le truc. Bon, déjà il y a un nouveau moteur graphique, donc ça pète dans tous les coins. T'as accès à des pouvoirs intersectorales, donc tu peux demander à ton navire de guerre qui est à des milliers de kilomètres au-dessus de toi d'envoyer des faisceaux laser et des bombes partout. Enfin voilà, ça pète un peu. Moi j'ai joué Space Marine contre Orc, j'ai fait un tutoriel, un bout de campagne et deux batailles. C'était vraiment bien bien prenant. Là en fait on avait carrément une heure pour tester. Moi je suis parti après 45 minutes parce que j'avais quand même envie de faire autre chose de ma journée, mais c'était vraiment sympa. Et bon, par contre, on voit qu'ils vont jouer encore une fois à fond sur le fait que c'est un jeu de figurines de base, parce qu'ils vont te permettre de customiser les couleurs de tous tes petits bonhommes. Ils veulent absolument que tu puisses mettre des petits autocollants et enfin voilà. Donc à voir si ça marche. J'en ai parlé avec un pote qui m'a dit ouais, ben bon ça c'est un peu accessoire. Je sais pas. Peut-être que ça servira de quand même de produit d'appel ou pas. On verra. Et toi, tu as pu tester un autre jeu. Enfin, j'étais à côté de toi, mais c'est toi qui l'as testé. Tu as testé Knuckle Paradise, qui lui, on l'a testé au coin de Arte. Donc c'est une boxeuse qui se retrouve dans un parc d'attractions avec une poule. Je sais plus.
Oui, c'est à peu près ça, hein, finalement. Une boxeuse qui ne veut plus boxer, hein, c'est très important. Donc, je pense que de base, elle est sorteuse ou un truc comme ça. Et en fait, finalement, elle va se retrouver donc dans ce vieux parc désaffecté et elle va être obligée de se battre, hein, par plein de moyens, hein, qu'ils soient logiques ou pas. Et oui, on a une poule avec nous, avec laquelle on discute et tout, et je trouve ça absolument
Cocotte.
incroyable. Enfin voilà, c'est un jeu qui est... Oui, putain, c'est vrai. C'est un jeu qui est plein d'humour. Et alors en fait, c'est un jeu de combat, donc, mais très narratif, hein. Globalement, tu n'avances que en discutant avec les gens et en avançant dans le jeu. Et voilà, ça a l'air de raconter une histoire. Les couleurs sont incroyables. Voilà, c'est en pixel art. Le pixel art est déjà très cool. Les animations sont vraiment très satisfaisantes visuellement. Mais
Ouais,
alors les
j'allais dire,
couleurs, enfin,
justement.
c'est incroyable. Ça a ce petit côté un peu rétro comme ça. Genre, vraiment, les couleurs. Faut imaginer le vieux parc d'attractions des années 80 désaffecté, tu vois. Vraiment, c'est typiquement ça. Et c'est hyper joli à regarder. L'ambiance est vraiment très cool. Et alors, la prise en main, bah, c'est hyper fluide. Et ce qui est intéressant, et ce que disait le dev avec lequel on a pu discuter, c'est que c'est autant accessible au casu, dans le sens où si tu appuies sur tous les boutons, ça marche. Mais où, en même temps, il est possible de créer des combos de zinzin et de faire du scoring de zinzin à partir du moment où on maîtrise les mécaniques de combat et où on a un peu, où on arrive à faire des synergies, quoi.
Et petite info supplémentaire, il y a même moyen de jouer avec un mode secret à deux. Donc
Oui, c'est vrai, on peut jouer
c'est
la
vrai.
poule. Bienvenue, j'avais
Yes. Ok,
oublié.
mais donc ça c'était pour la business area. Après, il y avait quand même bon l'autre endroit où on est allé un peu, mais on n'est pas resté trop non plus parce qu'il y avait beaucoup de gens et ça faisait un peu peur parfois, même tellement il y avait du monde. C'était les grandes salles où justement il y avait
Ah
Alien
oui.
Isolation et Total War Warhammer, mais pour le public, on a été obligé d'y aller pour tester notamment le jeu, un des jeux qu'on attendait le plus, Métro, pardon,
Oui.
2039.
Attention, hein. Pas Metroid.
Mais oui, donc on a pu tester là aussi une demi-heure de gameplay de Métro.
Ouais.
Toi, vas-y, donne-moi un peu ton impression.
Alors, c'était écrit 30 minutes, mais mensonge, il n'y en avait que 5.
Ah ouais. On a
Soit.
pris ton cerveau 25 minutes,
Non,
on te l'a laissé
métro.
5.
Oui. Métro, oh là là, que dire. Déjà, j'étais choquée que du coup, en fait, dans l'histoire de la franchise, c'est littéralement la première fois qu'on joue un... Enfin, que le personnage qu'on joue parle. Voilà.
On a entendu
Faut le
sa voix.
savoir. Donc, c'est hyper cool parce que ben, Métro 2033 a commencé à une époque où dans les FPS solo, ça se faisait beaucoup, le protagoniste qui parle pas. Mais c'est devenu un peu obsolète, voilà, avec le temps et surtout avec Métro Exodus. C'est quelque chose qui avait été pas mal reproché, qu'Artyom ne parle toujours pas. Alors que, bon, ils ont les moyens d'avoir des doubleurs, etc. Surtout que tous les jeux sont doublés, tous les personnages. Donc, ça n'avait pas de sens, mais c'était gardé. Et ils ont choisi de laisser tomber cette partie-là. Donc, voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Et non, mais globalement, après Métro, c'est
Très
super beau
fidèle
déjà, c'est
à
super
la
beau, ça
franchise
tourne
quand
super
même.
bien. Ouais, l'ambiance, elle est incroyable. Voilà, tu sors très très vite, tu te retrouves nez à nez avec des mutants. Voilà, le gameplay FPS, toujours hyper fluide, vraiment un game feel hyper cool. Il y a toujours le système de craft de plein de choses et surtout de modification des armes, qui est quand même très très important. Et qui a l'air de fonctionner très très bien. On verra si on aura plus de choix évidemment dans le futur, mais c'était déjà pas mal pour un début. Et puis bah, la partie dans les tunnels, discrétion avec les humains, etc. C'est toujours très très dans l'ambiance métro. J'ai trouvé que l'IA était un peu stupide et mettait du temps à nous voir en
Ouais,
discrétion.
moi je me souviens d'être sur des tubes au-dessus d'eux et de passer vraiment en mode oulalalala.
Ben, moi, je suis passée carrément accroupie
Ah
devant
ouais,
des gens
carrément.
et qui ont fait « Oh mon Dieu, c'est quoi ?» et puis qui sont retournés vaquer à leur occupation, tu vois. dès que j'étais plus dans le champ de vision. Donc bon, ça c'est pas terrible. Non,
après, c'est
ça
aussi,
il faut changer,
bon, voilà,
ça.
C'est une version test.
Oui,
c'est un
c'est
peu comme
démo,
c'est un peu comme la bête qui se téléporte dans Alien Isolation. On imagine clairement que ça va
c'est
être
ça.
Amélioré et fixé plus tard, mais vraiment ouais. Alors pour le côté personnage principal qui parle, je t'avoue que moi j'avais beaucoup aimé que dans Metro Exodus Artyom ne parle pas. Je trouve que pouvoir imaginer la voix dans sa tête, c'est aussi quelque chose. C'est un peu comme quand les gens qui ont lu Harry Potter disent je suis pas allé voir Harry Potter à la télé, enfin au cinéma, parce que on m'a un peu enlever mon imaginaire. Voilà, moi j'aime bien parfois ça. Mais,
ah oui,
mais bon, clairement,
j'entends.
Avoir un doublage pour le personnage principal sera clairement le bienvenu. En tout cas, si vous avez fait les métros, c'est complètement la suite, beaucoup plus dark,
oui.
Même visuellement. Je trouve que Metro Exodus était déjà bien sombre, mais là, visuellement, c'est très 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 sombre.
Ah oui, non, là,
Et par contre,
ouais,
on a nos repères, clairement,
quoi.
Dans les armes. Les armes sont quand même assez similaires, avec bien sûr des nouvelles choses, mais on s'y retrouve. Même les mutants, je trouvais que les mutants qu'on a croisés, les espèces de chiens hyper vénères, là, c'est notamment des mutants qu'on a déjà pu croiser aussi. Mais voilà, belle, belle promesse, et j'ai vraiment super hâte que ça sorte. Toi, tu as pu aussi aller tester Castlevania.
Oui, Castlevania, Belmont's Curse, c'est vraiment un problème parce que ça fait un moment que j'ai envie de me faire tous les Castlevania. Et du coup, je m'étais dit, ça va, je ferai ça et puis je jouerai au jeu. Et sauf que maintenant que j'y ai joué, j'ai envie de l'avoir dès qu'il va sortir, ce qui est un problème du coup. C'est génial. Franchement, c'est les devs de Dead Cells et ça se voit, le jeu. Enfin, je pense que c'est la démo la plus qualitative que j'ai testée de toute la Gamescom, quoi.
Oh, t'es
vraiment,
sortie de là-bas, t'étais hyper contente.
C'est incroyable.
Tu m'as dit, ouais,
ouais.
C'est vraiment
Oui.
un Dead Cells, mais amélioré et beaucoup plus. Enfin, est-ce que c'est plus nerveux quand même? Ou ça reste.
Non, pas spécialement. En fait, c'est. Alors, tu vois par rapport à Dead Cells, parce que la qualité du platforming, la réactivité des contrôles, le game feel est hyper similaire, mais tout le reste n'a rien à voir, dans le sens où toutes les mécaniques sont très Castlevania-esque. En tout cas, de ce que je connais de Castlevania, vraiment, je trouve que c'est un aboutissement de tout ce qu'il y avait eu jusque-là. Et même en termes d'univers, des boss, de la gueule des boss, de la gueule des ennemis, etc. Vraiment, c'est hyper fidèle, je trouve, à l'univers Castlevania que personnellement, je connais. Et en fait, c'est hyper léché, quoi. C'est hyper léché, c'est hyper polish, ça joue super bien. La musique, elle est incroyable. Enfin, je sais qu'il y a... on est dans une grande zone pour la démo et on peut juste aller où on veut et y passer un peu de temps. Et en fait, du coup, c'est relativement la même musique pendant 20 minutes, mais cette musique, elle est incroyable, vraiment. Moi, je me rappelle que toutes les 30 secondes, il y avait un drop dans la musique et j'étais là, putain, mais c'est incroyable ce qui se passe, j'adore, je veux rester là toute ma vie. Et c'était hyper hyper chouette. Et il y a les mécaniques Pokémon qui sont incroyables, voilà, ça je trouvais ça exceptionnel, le fait qu'à chaque fois qu'on tue un boss, on le mette dans une carte de tarot et du coup ça devienne une carte qui donne des pouvoirs. Voilà, je trouvais ça trop cool.
Palworld vient à peine de sortir en 1.0 que Castlevania vient déjà le remplacer. et après, dans les super jeux qu'on a testés aussi, dans ces grandes salles pleines de gens et pleines de on les appelait les parcs d'attractions, hein, tellement c'était haut en couleurs et en musique, ça allait super fort. Il y avait Dragon Dogma, c'était génial, Dragon Dogma.
Oh là là.
Allez, en vitesse,
C'était sur Switch 2.
Ça laguait du cul,
c'était pas joli.
Terne visuellement.
Ah oui.
Moi, je trouve aussi que même les doublages sont pas hyper entraînants. Enfin voilà, on est allé parce que on voulait choper un goodies pour un pote à toi. On l'a eu. J'ai eu un petit verre en plastique. Et puis on s'est barré fissa et on est allé dans indie area, les jeux indés. Et là, je suis désolé de te dire, Dova, on va devoir speedrun cette partie. Il nous reste 20 minutes. minutes pour vous parler de tout ça. En plus de ça, on a des interviews. Ça, c'est la partie qui est vraiment très très cool. C'est qu'on a réussi à interviewer pas mal de développeurs et développeuses. Mais à mon avis, on va devoir faire des choix dans les interviews qu'on passe devant. On va pas pouvoir passer toutes les interviews. En tout cas, le premier jeu, commençons peut-être par Mr. Records, qui est vraiment une belle mise en bouche parce qu'on a tous les deux bien bien aimé. Donc le topo de base, c'est qu'on incarne un vieux monsieur qui réalise son rêve, c'est celui d'ouvrir un magasin de vinyle. Et donc ce monsieur, eh bien, quand il se met dans à écouter son vinyle, eh bien, il se projette dans la musique et là, boum, on arrive dans un paysage très pop, très, très haut en couleur. Et en fait, ben, il se balade littéralement. Mm-hmm. Et là, en fait, on a un jeu de rythme qui commence où on doit faire des petits jumps, on doit donner des coups dans des trucs, on doit slide à gauche, à droite. Donc voilà, Mr. Records, vraiment très, très, très sympa. Glitchy Studio, on a eu l'interview. Ça y est, on a testé notre premier jeu indé de la Gamescom. Ça s'appelle Mr. Records. Et en face de moi, j'ai Olivier. Comment tu vas ?
Ça va très bien.
Dis-moi un petit peu, quel est votre studio ?
Nous, on est Glitchy Studio.
Ok.
On est un studio qui est là depuis 2020, en fait, voilà. On a déjà fait notre jeu musical, qui est Headbangers. Et avant ça, un autre jeu qui était vraiment narrative musicale, qui était un musical story. Et donc, le nouveau jeu, Mr. Records.
Et donc là, vous nous proposez un jeu où on incarne un vieux monsieur qui a décidé de réaliser un peu le rêve de sa vie, j'ai l'impression, c'est d'ouvrir un magasin de vinyle, quoi, c'est ça ?
Exactement, un magasin de vinyle. En fait, pour l'histoire, il a un peu un super pouvoir que finalement on a tous, c'est d'incarner la musique. C'est-à-dire, quand il écoute un morceau de musique, il rentre dans le morceau et il vit ce morceau. Voilà.
Donc c'est une DA assez colorée, assez au niveau musique, c'est assez funky.
Oui, c'est ça. En fait, dans l'équipe, on a deux compositeurs, donc Charles Bardin et Valentin Duclou, qui ont composé toutes les musiques du jeu. Voilà, c'est que des musiques originales.
Est-ce que là, le jeu est terminé ?
Le jeu est pas loin d'être terminé, on est en train de le finaliser.
Et vous avez du coup combien de musique au total ?
On va avoir pas loin de 50 musiques.
Et donc tout ça jouable en deux niveaux, il y a le niveau normal et le niveau hard ?
Oui, donc là vous avez pu tester le gameplay du runner, mais il va y avoir quand même d'autres gameplays. La démo montre juste le début, mais il va y avoir plein d'autres choses après derrière. Ah.
Trop bien, hâte de découvrir, franchement j'ai passé du super bon temps, j'adore la musique. Et quand est-ce qu'on peut du coup attendre une sortie ?
Ah ah, début 2027 ce sera.
Ok, super. Ben, merci beaucoup Olivier et bon courage, bonne Gamescom. Donc c'était Mr. Records, je vous conseille d'aller le wishlister sur Steam. Oui. Voilà, Mr. Records, MR comme Mr. et puis Records comme les vinyles. Exactement. après ça, tu es allé tester un jeu que tu avais quand même envie d'essayer, Karma Exorcist, dis-moi. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, Karma Exorcist, du coup, donc c'est un Metroidvania, platformer, c'est très Hollow Knight matériel, mais avec une ambiance plutôt, plutôt asiatique. Et franchement, c'était hyper cool, voilà. Il y a des chouettes mécaniques, il y a des bonnes idées, il y a vraiment beaucoup d'armes dans la démo, donc je pense qu'il y en aura encore plus dans le jeu. Et c'était hyper sympa. Si on aime bien les Metroidvania, je pense que si on a kiffé Hollow Knight, franchement, ça va être un jeu
à surveiller.
À garder sous le coude, hein, parce que ça avait un bon potentiel.
Ok, ouais. Moi pendant ce temps-là, je suis allé essayer un jeu dont je ne connaissais rien et que je vais vite quitter parce que c'était full intelligence artificielle et en plus, il y avait une manette branchée qui me faisait sentir des odeurs qui puent du cul. Ça s'appelle Nostra, donc vraiment, n'allez pas jouer à ce jeu, désolé, on va faire de la contre-publicité. Mais c'était un jeu d'aventure médiévale un peu pixelisé. Déjà, la pixelisation semblait bien trop léchée et bien trop pas assez pétillante à mes yeux, on va dire. Et puis à un moment, les dialogues ont commencé, et là j'ai compris tout de suite, c'était full asset IA, donc n'allez pas jouer à Nostra. Désolé. Et puis après, pour se remettre de ça, on avait besoin d'un peu de taper, donc on est allé jouer à Slammiverse, qui lui, par contre,
oui.
Alors, clairement, c'est pas le jeu qui nous a fait sauter dans tous les coins, mais ce qui est chouette, c'est qu'il avait l'air d'être vraiment développé par des personnes qui avaient très 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 envie de le pousser assez loin. C'est un jeu de cartes qui met en scène des matchs de catch. Et donc, il y a vraiment cette dynamique où c'est du tour par tour. On va jouer, on a un tour d'attaque et on va jouer à ce moment-là, du coup, de notre côté, des cartes défense si on peut en avoir. Et puis, ça va être notre tour d'attaquer. On va jouer des cartes attaque et l'autre va pouvoir peut-être se défendre ou pas. Super sympa en tout cas. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait, je pense, quatre déjà personnages différents avec chacune leur particularité. Et vraiment, quand on a parlé avec la personne qui était au stand, on a senti toute la passion derrière. Ils étaient là, ouais, si vous voulez aller voir, pareil, vous pouvez aller voir sur Steam Slammiverse. Il y a un trailer qu'ils ont filmé et tout avec un gars qui fait vraiment du catch. Enfin, ça se sent que c'est vraiment super bonne ambiance et que, bon, voilà, ça les fait kiffer. Et donc, bah, nous, on est assez. Assez sensible à ça, de voir des gens qui font des trucs qu'ils aiment. Ensuite, oui. Après, on est quand même allé, on a passé pas mal de temps au Bastion coréen. Et si je dois juste déjà mettre un truc en avant, oui. C'est que quand on a testé les jeux là-bas, mon Dieu, contrairement à Nostra, qu'est-ce que ça se voit que c'est des gens qui aiment faire de l'art, quoi. Visuellement, on a pris des claques les unes après les autres. Petit big up quand même à beaucoup de jeux qui étaient traduits dans plus d'une dizaine de langues. On a pu jouer à plusieurs jeux en français, ce qui n'est pas le cas de tous les autres jeux européens, par exemple, qu'on a essayé. Donc là, des Coréens qui se ramènent, qui nous font jouer à des jeux en français, ils nous disent « S'il vous plaît, faites-nous un retour sur la traduction, parce qu'on a quand même payé cher et tout ça pour que ça soit... » Non, mais payé cher dans le sens où ils ont mis de l'investissement, quoi. Donc c'était vraiment super intéressant. Oui. Le premier jeu qu'on a testé, c'est Hellpunk, parce que toi, tu l'avais vu et tu voulais absolument aller le tester. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Oui, alors Hellpunk Purgatorium, attention parce qu'il y a un Hellpunk tout court et c'est pas celui-là. Donc du coup, c'est un platformer hyper dynamique, presque épileptique, avec du sang partout et de la violence dans tous les coins. Et en fait, donc on se réveille au purgatoire, littéralement. Et en gros, on va devoir remonter dans la tour de l'enfer, entre guillemets, et en passant par les sept étages des péchés capitaux. Et voilà, on va utiliser des espèces de cellules là pour modifier notre organisme, ouais. Littéralement, pour pouvoir du coup réussir les combats, passer les boss, etc. Et c'est un roguelite, bien
et
évidemment.
Et on a pu interviewer le CEO.
We are back from the test of your game. Can you just give me your name first?
Hello, my name is Kevin Ji. In Korea, Sang Woo Ji. Yeah, I'm from South Korea. The game director of the Hellpunk Purgatorium.
So, Hellpunk. Why hell? Why punk? What these both words together?
We just wanted to draw some hellish things at first, and our art designer friend really likes punky things, so we just try to combine them. Yeah. So, our game's visual design is more like Doom and the Skull and Dead Cells. So we call our game Doom Cells or Doom Skull.
So we just played now your game for I think like around 10 minutes. I really had kind of a Dead Cells impression. Was it like one of your main inspiration?
Actually, the Dead Cells was the later one. After we just made our game and showcased to game players, they said to us, oh, it looks like a Dead Cell. Mm-hmm. At first, the visual reference is just the Katana Zero and Skull, the Hero Slayer, yeah.
So then you have your particularity with the grid organization, like the fact that you have a certain space where you can implement kind of expansions of your power, of your body. You can also like literally change your body, add some stuff and everything. What's the biggest thing you can do? Like, how far can you go into this? Can you add like different level of powers? Because I see there is the blue power, the purple, the golden, and the red.
They are all inspiration of the seven deadly sins. There are more three additional sins that not showcased in today. They have their own synergy. So if you collect them with the same sins in the same grid, you can have really powerful synergy in your power. For example, the red one that was a race. That is the power of the fire and the execution. So if you combine them, then you can have a really high percentage of the Grogi and execution and have a really high damage of the fire and like that. You can combine them.
And a bit more about the lore. I died twice. And the first time I saw a person welcoming me in hell. Are we trapped there? It looks like we are here since a long time, but what's exactly, what do we do here?
The protagonist, his name is Asher Drake, and he just fell into the purgatorium with no memory. So he just wants to find, why am I here? So the player can find the reason why he is here by the something collectibles in while playing the game. The tower the player should have to climb is the kind of the purgatorium tower. So the every chapter is related to his background story. For example, first chapter is a chapter of greed, and that means the protagonist had a kind of sin of the greed when he was alive. So people can think about that while playing the game.
It's just to ask, but I think I know the answer. We didn't see any boss, but I guess there are some.
Yeah, there are two bosses in here right now. And we are planning to have five bosses when we release. Anyone is interested in our game, please try our boss. Yeah, I want to say that. We really tried our best to show our bosses.
Okay, thank you so much, and thanks for welcoming us in the Purgatorium.
thank you.
Ok, ça c'était du coup pour l'interview du directeur de production de Hellpunk. Ouais. Alors il nous reste encore quelques jeux dont on aimerait vous parler. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout vous passer. On va devoir faire un choix. Bah oui, bah un dont on avait vraiment envie de vous parler, oui. Mais il va falloir qu'on skip, je pense, c'est Lone Chef. Donc c'est platformer, aventure, ouais. on incarne un gars qui se réveille dans une caverne. Il a perdu la mémoire, il est tout mou comme ça. Et après, il découvre un livre de recettes et une cuillère géante. Et en fait, il se rappelle qu'il était cuisinier. Et il va commencer une aventure où il va collecter, il va essayer de retrouver la mémoire en cuisinant, notamment, et aussi en rencontrant des personnes, en partageant des repas avec elle. L'interview est vraiment super chouette parce qu'en plus, ça parle de la culture, de la nourriture en oui. Corée. Ce que je vous propose, c'est qu'on on peut la poster sur Insta, Dova. On mettra peut-être un petit visuel avec, et comme ça, au moins, c'est pas perdu. Et au moins, les personnes peuvent écouter ce qu'avait à dire le directeur, le CEO de Lone Chef. Mais c'était vraiment très, très chouette. On a aussi du coup plus dans la thématique de Protopie tout à l'heure dont on a parlé, on a testé deux jeux assez différents d'ailleurs de ceux dont on vous a parlé ici précédemment. Le premier c'est The Regreening et comme son nom l'indique, en fait on va reverdurer un espace. Cet espace c'est un village où on incarne une petite fille, ça a l'air en tout cas d'être une fille, on va dire un enfant, où il habite avec sa grand-mère. Il va commencer à retirer toutes les poubelles et tout ce qui traîne un peu partout, parce qu'on vit dans un monde où il y a plein de déchets, parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Et on va pouvoir, au fur et à mesure, ramener de la nature, ramener des plantes, ramener des animaux et vraiment faire revivre cet espace. Je vous propose d'écouter l'interview. Donc on est ici avec la CEO du studio Positive Impact Games. On a testé le jeu The Regreening et donc on va lui poser quelques questions. Hello, how are you?
Hello, very good to be here. Thank you so much.
Yeah. Thank you to you to take a bit of time to explain behind the scenes and everything. Can you maybe introduce yourself and the studio you are part of?
Absolutely. I am Volha Kapitonova. I am the managing director of Positive Impact Games. We are a studio based in Hamburg, in Germany. We got the prototype fund from the Game City Hamburg to make our first game, The Regreening. But all of the people who founded the studio, we are five people, we had made games before. So we had the experience, but we wanted to make something that all of us were passionate about, and this is how The Regreening came to be.
So The Regreening, let's jump into the game. What are we gonna regreen?
This is a great question. You already see that this is a little bit of a speaking name. So the goal of the game is to revive the world that was abandoned by humans. The idea is that you walk around the area where you grew up with your grandmother, and you see all of her effort to kind of stop the deforestation and land degradation processes in the area, and you learn to tend to the land, to take care of the seeds, to grow things. And we wanted to make sure that players who play this are going to be inspired by what they're doing. You can also bring back the animals that were originally living at the land. So there are bunnies and the foxes and butterflies and bees, and there are so many more animals. And when you bring them back by building the habitats and planting the right trees and bushes and plants, you can also hug them.
Yeah, we saw bunnies jumping out of the hole and we were like, oh yeah, 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 yeah. As we saw a conference about many games are a bit like dystopic, some of the others are a bit utopic, and we try to find games that maybe push people to live in the concrete world, find the concrete solution, maybe have a concrete look on the world. Is your game part of this intention? Do you feel it?
So for us, when we were making The Regreening, for us the first and foremost thing was to refocus the environmental collapse topic. Because everyone right now, when talking about the environmental collapse, this is a very dreadful and fearful topic. And usually when people hear about this talk being talked about in this way, they just freeze, they don't know what to do, they get desperate, and we wanted to make things around. So in The Regreening, we're trying to provide a hopeful, very kind and relaxing solution so that people enjoy regreening the land, hopefully get inspired to do something like this or research the projects that are currently happening in Europe even. I come from Czech Republic, and just to share a little bit, we have a part of land which is currently being transformed into a desert because of the it's really happening right now in Europe, that land degradation is real. And so we were inspired by the real world projects like the Green Wall of Africa. There are different other projects in China trying to fight these issues. And so for us, it was really important to make sure that the game doesn't present some kind of utopian or dystopian way of thinking, but more inspiring and teaching and making players learn more about the issue and hopefully have the motivation and the inspiration to do something in their communities.
Okay, thank you. Maybe about when people could have it on their hands. When do you already have a release date or a beta coming?
This is a very good question. We actually just announced before Gamescom that we will have the demo released on the 21st of September. It will be on Steam, so anyone with the Steam account can simply wishlist the game. They will get notified about the demo release on the 21st of September, and then they can play The Regreening or at least try it out. And we will have the release of the game a little later, but again, if you wishlisted the game, then you will get a notification.
Thank you so much. If you have one last word, if you want to say something for the people who are gonna play or listen to the interview, what would it be?
I would absolutely wish everyone to eat their greens and plant more trees. Thank you so much.
Thanks to you. Thank you.
Vous avez compris, du coup, il faut manger vos légumes et planter des arbres.
Et planter des arbres, oui.
En tout cas, ben voilà, c'était le petit échange qu'on a pu avoir avec une des personnes qui crée The Regreening. Je pense que c'était important d'en parler parce que, mais voilà, comme on avait dit, il y avait le sujet de la protopie et des jeux qui poussent à l'action. Ici, clairement, c'est le but. C'est un jeu hyper positif et en même temps qui, ben voilà, essaye de donner des clés. Et dans cet état d'esprit aussi, on a testé un autre jeu qui s'appelle All Will Rise. C'est toi qui l'as testé d'ailleurs, notamment, Deva. Est-ce que tu voudrais expliquer un petit peu en quoi il consiste ?
Donc en fait, le but du jeu, c'est de condamner juridiquement un milliardaire qui a tué une rivière. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et en fait, ce qui est super intéressant, donc c'est un jeu où c'est des genres de combats qui sont plutôt des débats en fait, puisqu'on combat à coups d'arguments, de mots, etc., de façon de parler, de façon de penser le débat. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il y a toutes les étapes. Donc d'abord, la première étape de la démo, par exemple, c'est de considérer juridiquement la rivière comme une personne juridique et donc défendable et qui du coup a été tuée par exemple. Et en fait on évolue comme ça et chaque fois qu'on se retrouve dans le tribunal, et ben, on doit essayer de faire avancer notre situation pour pouvoir justement arriver à cette condamnation qui est le but final du jeu en fait. Et c'est hyper cool, les dessins sont vraiment très très chouettes, les dialogues sont bien écrits, j'ai trouvé. Et en fait, vraiment, ce combat de mots là, c'est super intéressant et ça fait beaucoup réfléchir en fait. Et c'est un jeu qui se cale totalement dans le registre hein, des protopies qu'on a évoquées, parce que là, clairement, ça donne même des pistes légales en fait de comment arriver à défendre certaines choses. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pousse les gens aussi à se rassembler, à montrer que voilà, si on est beaucoup, par exemple, à soutenir telle ou telle cause, ben en fait, on peut avoir un poids à certains niveaux gouvernementaux. Et voilà, donc ça s'inscrit dans ce registre de regarder, on n'est pas seul, on peut faire des choses et il y a des actions à faire, donc faites-les.
C'est ça, il y a un côté très militant dans ce jeu. On a aussi eu l'occasion d'interviewer quelqu'un qui développe le jeu. Malheureusement, on est we are running out of time, on n'a plus de temps pour le passer. Donc, comme pour Lone Chef et comme je pense pour d'autres interviews, on va vous les poster sur nos Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, c'est basile.mativi et toi, Deva, c'est
Dovadine, D-O-V-A-H-D-2-I-N-E.
Et donc on postera ça, on postera peut-être d'autres choses aussi. Moi j'avais envie de vous faire un petit top 3 ou top 5 des jeux que j'ai testés et que j'ai envie de suivre à la sortie. Il y avait d'autres jeux encore dont on aurait pu parler, notamment Sketch Switch, un jeu où on dessine et une intelligence artificielle analyse nos dessins pour savoir si on a rempli la tâche qui nous était demandée. Barbie Horse Ride and Rescue, où on incarne du coup Barbie qui va ouvrir un ranch pour bien sûr soigner tous les chevaux malades des environs et bien sûr les sauver. Il y avait Monowave qui est un jeu qui joue sur les émotions, où on est non seulement un personnage qui peut changer de gameplay en fonction des émotions, mais qui peut transmettre les émotions au PNJ qu'il y a dans son environnement et donc influencer la manière dont agissent les différentes composantes autour de soi. Il y a Future No Thanks qui est un jeu où on incarne un vieux monsieur qui ressemble très fort à Rick dans Rick et Morty et qui a une grosse voix comme ça et en fait qui est un vieux qui se réveille dans un monde complètement écolo, vegan, voilà. Et lui ne veut pas, lui il veut manger un steak, il veut faire un dernier tour en voiture et il veut brûler des trucs quoi, en gros. Voilà, ça c'est pour vous donner un aperçu, j'espère qu'on a essayé, d'être vraiment le plus, le plus complet possible, mais nous sommes restreints par le temps, donc on va devoir vous laisser là. Moi Deva, j'avais envie de te proposer quelque chose, j'avais envie de te proposer qu'on se fasse au moins le test de Mr. Records en live sur Twitch 1C4, est-ce que ça te tente ?
Tout à fait, de fou.
On peut même se faire des compètes, tu vois, quand ça, si on essaye de voilà, faire celui qui fait les 5, je sais pas, on se donne genre 5 chansons, le premier qui fait les 5 étoiles en mode hard, bam, on se lance des petits challenges comme ça. En tout cas, juste pour dire que ces jeux m'ont donné envie clairement de m'asseoir de temps en temps devant mon PC, de lancer Steam et de jouer à des trucs qui donnent envie aussi de faire autre chose que taper partout. Et voilà, je pense, si on doit retenir un truc, c'est que les jeux sont très très pluriel dans leur approche et tout ce qu'on a essayé de vous proposer essaye de vous donner plein de manières différentes de voir le monde, d'envisager le monde. Et ben voilà, j'espère qu'on a essayé on a réussi à vous transmettre ce message. Je sais pas si toi Deva, t'as un dernier petit truc à dire pour clôturer l'émission.
faites des jeux positifs, voilà, même dans des dystopies, c'est pas incompatible. Et puis venez à la Gamescom, c'était rigolo.
Ouais, de ouf. Nous, on se donne en tout cas rendez-vous avec la Gamescom pour l'année prochaine.
Oui.
Et on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Il va falloir qu'on revienne à nos habitudes, qu'on revienne à l'analyse d'un jeu. Je ne sais pas encore exactement lequel. J'ai l'impression qu'il y a un petit Katana Zero qui traîne dans les tiroirs.
Oui, oui. Tout à fait.
Qui, en plus, a été cité par le CEO de Hellpunk. Donc, quelle plus belle occasion de découvrir Hellpunk et de jouer à Katana Zero sur le côté, peut-être. Je ne sais pas.
Oui.
En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée. Merci Dova encore de m'accompagner dans toutes ces folles aventures.
Mais avec plaisir.
Et bien écoute, on se donne rendez-vous très très vite, que ce soit sur Instagram, sur Twitch ou sur Radio Campus. À bientôt tout le monde, au revoir.
Salut.
Salut.